When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Place aujourd'hui à une carte blanche, ces épisodes liés à des articles qui ne sont pas parus chez un de nos partenaires, mais qui ont été écrits par des journalistes du Grand Sud-Ouest ou qui relatent une réalité du territoire. Nous nous tournons vers un article paru dans le magazine Deuxième Page. Il s'appelle « Épuisement, renoncement et énervement, le quotidien des soignantes et des soignants ». C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Pauline Moskowski-Wargly.
Bonjour, merci de m'avoir.
Je précise Pauline que votre article est accompagné de très belles photos prises par Marie Rouge lors de manifestations. Pauline, vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez notamment pour Radio Parleur, qui se définit comme le média des luttes. Vous animez également une newsletter mensuelle, le Podcast Club. Vous êtes bordelaise et en l'occurrence, vous avez choisi de vous rendre dans un hôpital de Dordogne pour le tout nouveau magazine Deuxième Page. Un mot d'abord sur ce magazine, vous pouvez nous le présenter ?
Oui, alors au début c'était un web magazine qui a lancé un appel à projet et à financement l'année dernière autour de leur premier magazine sur la colère. D'ailleurs, je peux annoncer aujourd'hui qu'ils font un appel à un deuxième numéro sur Futur, donc n'hésitez surtout pas à postuler. Et ce que j'ai trouvé bien dans la démarche de ce magazine, c'est que justement, c'était un appel à projet de manière large, à la fois pour des journalistes, mais aussi des auteurs et des autrices de fiction, par exemple, ou des photographes ou des illustrateurs. Et donc, en fait, ça permet de faire un objet, donc le magazine, un objet à multimédia, en fait, au final, sur une même thématique. La plupart des articles qui sont dans la revue aujourd'hui seront aussi sous format numérique dans l'année prochaine.
Deuxième page donc. Alors Pauline, je le disais, vous êtes allée à la rencontre de soignantes et de soignants dans un hôpital de Dordogne, que vous ne citez pas d'ailleurs dans votre papier, j'imagine que c'est une volonté.
Oui, tout à fait, déjà parce que j'ai été accueillie à bras ouverts par ces soignantes, en particulier de ce service, et pour permettre une conversation la plus libre possible et qu'elles puissent vraiment aller au fond, parce qu'on a beaucoup parlé de leurs conditions de travail, du Covid notamment, etc. C'était un peu un postulat entre nous et un accord du fait qu'elles puissent être anonymes, ce qui leur permettait aussi de pouvoir parler notamment de leur rapport avec leur hiérarchie directe, ce qui aurait été plus compliqué si c'était pas anonyme, en sachant qu'en Dordogne, il y a peu finalement d'hôpitaux psychiatriques, il y en a 4 à ma connaissance, et donc de fait, ça pouvait très facilement être repérable si je les citais, quoi, même si je citais le service en tant que tel.
Alors bien sûr, sans permettre de l'identifier, mais pour en avoir un aperçu, à quoi ressemble-t-il cet hôpital ?
Alors déjà, c'est un très gros hôpital qui est en train de fermer. Donc en fait, il faut imaginer, d'ailleurs dans l'article je le dis, on dirait vraiment une petite ville. Il y a 20 ans, il y avait plus de 1000 personnes qui travaillaient dans cet hôpital. Donc c'était un bassin d'emploi absolument gigantesque. Aujourd'hui, on voit des fermetures de services les années après années et des fermetures de lits aussi. C'est un hôpital qui est un hôpital de campagne au sens où il y a beaucoup, beaucoup de pavillons au milieu d'un énorme parc. Pour donner une image et une idée, avant, au sein de cet hôpital, il y avait un cinéma qui était le cinéma de l'hôpital et qui était maintenant un cinéma désaffecté pour les patients et les soignants. Il y avait aussi un supermarché au sein de l'hôpital juste pour les soignants et les patients. Donc en fait, c'était vraiment une très grosse machine qui est maintenant en perte de vitesse et en fermeture. Par contre, les bâtiments restent. Ça reste quand même un hôpital important, étant donné qu'il est au milieu d'une zone assez large et donc beaucoup de personnes qui ont besoin de soins psychiatriques, que ce soit de psychiatriques de jour ou à hospitalisation, vont dans cet hôpital.
Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi de vous rendre dans cet hôpital en particulier, Pauline, et pourquoi notamment au service psychiatrique ?
Alors en fait, pour être honnête, je viens de cette région et donc pour moi, cet hôpital, ça a toujours été un bassin d'emploi dans ma vie. Et j'ai des amis qui y travaillent encore. Et donc, en fait, c'est en ayant des conversations informelles, en fait, avec mes amis, notamment d'enfance, que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie problématique, à la fois sur la santé en milieu rural. Je pense que c'est quelque chose qui est assez travaillé en ce moment, mais en psychiatrie en particulier, parce que ça reste quand même encore le parent pauvre des réformes hospitalières et de l'argent alors que c'est quelque chose qui, notamment en temps de Covid, on se rend compte que la question de la santé mentale est primordiale. Et il m'a semblé extrêmement important, en fait, de faire le contrepoint avec l'habitude aussi des reportages qu'on va avoir sur ce genre de sujet. C'est-à-dire que moi, on m'a proposé un reportage sur la colère des soignants, et je pense qu'on était plutôt parti sur quelque chose sur la colère des syndicats ou les manifestations. Et moi, j'ai vraiment voulu prendre le contre-pied en allant sur des espaces qui sont très, très peu étudiés. Justement pour montrer aussi que s'approprier sa colère, et la colère en général, c'est aussi une question de pouvoir se l'approprier, que ce soit au niveau d'aller en manifestation, au sens de se déplacer, mais aussi avoir des syndicats sur place qui permettent aussi l'organisation des soignants et des soignantes. Et je trouvais c'est important de aussi avoir ces questions-là qui apparaissent dans ce genre de magazine.
C'est la raison pour laquelle vous avez choisi de passer 3 jours en immersion dans un service.
Oui, tout à fait. J'ai passé 1 jour entier dans le service et 2 jours en entretien et en observation. Et c'était très important pour moi de pouvoir vraiment m'approprier aussi le vécu et pas juste avoir une parole superficielle d'un entretien qui dure 20 minutes, qui peut être très très importante. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ces conditions de travail en tant que journaliste. Je pense que c'est pas obligatoirement le cas de tout le monde. Ça me permettait aussi de capter toutes les conversations informelles entre soignants et soignantes en particulier, et aussi entre soignantes du pas du même statut. Parce que dans le reportage que je fais, j'ai une ASH. Les ASH, c'est les assistantes de service hospitalier. Une aide-soignante et 2 infirmières. J'ai complété leurs paroles avec d'autres soignants que j'ai contactés, mais qui ne sont pas obligatoirement du service. Et ça me permettait aussi de comprendre leur dynamique entre elles et leur dynamique de soutien justement face à cette colère. Et ce n'est à mon avis que possible par l'observation et aussi par le fait qu'elles nous font confiance à un moment pour aussi qu'on puisse porter correctement cette parole-là.
Le mot d'ordre de ce numéro de 2e page, vous l'avez dit, c'est colère. C'est le sentiment qui prédomine chez les personnes que vous avez rencontrées?
Alors oui et non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, en faisant un peu cette démarche-là, et d'ailleurs, mon article finit par la colère, mais montre toute une évolution en fait de sentiments. Il y a la colère, mais la colère, c'est aussi un moyen, c'est un outil, c'est une essence en fait pour se mobiliser vers l'extérieur. C'est une mobilisation vers sa hiérarchie directe ou voire vers le gouvernement. Beaucoup, beaucoup de soignants et soignantes, en fait, ont dépassé le stade de la colère. Ils sont plus dans le stade du renoncement. Et ça, ça se voit de plus en plus dans beaucoup, beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on parle peu, en fait. Et ça se voit beaucoup, par exemple, avec l'utilisation de l'intérim. Beaucoup de soignants et de soignantes décident de faire de l'intérim parce qu'en fait, au final, par ce biais-là, ils s'implantent moins, donc ils ont moins de rapports directs avec la hiérarchie sur le long terme et ils gagnent plus d'argent. On enlève du sens, en fait, à leur position de soignant et de soignante. Et donc, en fait, cette violence-là fait que, dans un premier temps, elles sont en colère. Et dans un second temps, souvent, en fait, sont un peu fatalistes. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'elles étaient pas tant en colère, enfin, elles étaient en colère pour leurs conditions de travail, mais elles étaient aussi très en colère sur le fait que leurs conditions de travail impactent la manière dont elles puissent soigner leurs patients et leurs patientes, en sachant que c'est particulier en psychiatrie parce que en fait elles cohabitent de manière beaucoup plus proche en fait avec les patients et les patientes qu'elles ont, parce que il y a tout un côté éducatif dans l'informel qu'on a dans la psychiatrie qu'on a moins dans les autres, enfin qu'on peut rencontrer dans d'autres services hospitaliers mais qu'on a quand même un peu moins. Et là en fait on a vraiment un rapport direct avec le patient et donc on voit à quel point ça l'impacte vraiment fortement en fait. Et je pense que c'était ça qui créait aussi un peu la frustration et un peu le renoncement de dire ben, « la colère, ça va aussi m'empêcher de un peu récolter les morceaux et donc en fait je vais mettre mon énergie pour les patients ». Ce qui entraîne au long cours que finalement les conditions de travail continuent encore plus de se dégrader.
Oui, parce que pour parler de leurs conditions de travail, tout d'abord il y a bien sûr les salaires qui sont trop bas, mais peut-être surtout un manque de moyens matériels, des lits qui font défaut. On a presque l'impression de lire un reportage sur un pays en guerre ou en tout cas manquant cruellement de moyens.
Ah oui, et encore je pense que pour le coup le service dans lequel j'étais manquer de moyens, mais il y a des services qui sont encore pires que le service où j'étais. Ce qui a fondamentalement changé les choses, ça a été la tarification à l'acte. La tarification à l'acte, c'est le fait que la sécurité sociale prend un tarif autour de chaque acte médical et qu'en fait, on donne une enveloppe en fonction des actes médicaux qu'on fait. Ça permet en fait de rendre, entre guillemets, tangible et comptable en fait la médecine, même si déjà dans d'autres services que la psychiatrie, c'est déjà très dénoncé. Parce que en fait, le soin, c'est bien plus large que seulement mettre un plâtre, par exemple. C'est aussi rassurer. Et rassurer, ça ne peut pas être tarifé, par exemple. Et dans la psychiatrie, pendant très longtemps, en fait, on a pensé que la tarification à l'acte était absolument impossible à être appliquée, étant donné que beaucoup de soins sont de l'ordre de l'informel. Et en fait, ils sont en train de mettre en place la tarification à l'acte, ce qui touche fondamentalement en fait, beaucoup de services et qui sont en train en fait, d'entraîner un manque de moyens incroyable. Pour donner le cas du service dans lequel j'ai travaillé, pour que elles puissent être à 100% de leurs soins, c'est-à-dire un peu le minimum syndical de ce qu'on pourrait attendre pour ce genre de service. Il faudrait qu'elles soient à 5 temps plein. Aujourd'hui, elles sont à 4 personnes employées, mais il y en a une à 80%. Donc en fait, 3 temps plein et un à 80%. Et donc en fait, ça touche fondamentalement la manière dont elles travaillent. Et donc, de fait, elles sont plus dans une logique comptable, où la question, c'est de savoir, il faut remplir en fait les lits. En fait, remplir les lits, ça permet de justifier auprès de la sécurité sociale que le service existe, et donc ça permet de gagner de l'argent, sauf qu'en fait, ça fait aussi qu'il y a des patients, notamment en psychiatrie, qui se retrouvent dans certains services qui ne sont pas exactement adaptés à leur maladie. Donc en fait, ça pose plein aussi d'autres questions au centre de soins, outre de leurs conditions de travail. En ce moment, ce qui se passe dans la psychiatrie est très très grave. Il y a des mouvements assez importants, notamment le printemps de la psychiatrie qui a eu à 2 ans, qui ont dénoncé ça. C'est encore des mouvements qui sont peu connus, même si certains journaux en font les échos, notamment je pense au journal Bastamag qui a suivi le printemps de la psychiatrie là-dessus. Et donc c'est vraiment un peu le parent pauvre de l'hôpital aujourd'hui.
Oui, cette logique de rentabilité, on a vraiment l'impression qu'elle est au cœur de tous les dysfonctionnements, en tout cas dans la bouche des personnes que vous avez rencontrées, c'est ce qui revient beaucoup. On a le sentiment qu'il y a une fracture, sans mauvais jeu de mots, énorme entre ce qu'elles et eux imaginaient faire de leur métier et cette logique de rentabilité. C'est au cœur du problème.
Oui, tout à fait. Et surtout, en fait, je pense que la psychiatrie, c'est vraiment un service d'hôpital particulier, au sens où la plupart des soignants et des soignantes qui choisissent d'être en psychiatrie, c'est mal considéré déjà dans la médecine en général. Donc en fait, quand un soignant choisit d'aller en psychiatrie, c'est pas pour la fame. Ils y vont parce que ils ont une volonté de travailler après ce type de public. Ils y vont une utilité aussi en tant que soignant. Et en fait, la rentabilité qu'on met dans leurs soins, en particulier en psychiatrie, est totalement antinomique avec leur mission de service public. C'est-à-dire que la plupart des soignants et des soignantes en particulier que moi j'ai interrogées, sont dans une perspective de non-sens en fait de leur pratique. Et je pense que c'est leur équipe, et c'était ça qui est intéressant aussi dans ce service, c'est que c'est une équipe qui est très soudée. Je pense que c'est que l'équipe qui leur permet aujourd'hui encore de continuer à travailler. Et surtout, je pense qu'elles se sentent attaquées par deux niveaux, à la fois en interne, c'est-à-dire par leur hiérarchie directe, que ce soit parfois leur cadre ou les médecins qui sont pas exactement là en soutien face aux soignants, etc., en sachant qu'on est parfois sur du public qui est assez difficile, mais aussi attaqué au sens plus structurel, parce qu'en fait, elles se sentent un peu sur la sellette à chaque fois, vu qu'il y a beaucoup de services qui ferment dans cet hôpital, et donc c'est très compliqué de s'investir dans une tâche quand on ne sait pas si dans 5 ans son service sera fermé. Et je trouvais ça intéressant de aussi porter cette parole de comment les soignantes, notamment en psychiatrie, elles s'approprient leur travail pour créer en fait des process qui leur sont propres, soit en équipe, soit de manière individuelle, et que c'est considéré comme une véritable violence de les changer parfois de poste, parce que justement ça leur demande parfois à remettre en place un process qui, je pense, est valable dans tous les soins, mais en particulier en psychiatrie, et d'autant plus violent, je pense.
Il m'appelle au secours quand il est malade, je le guéris toujours de ses mots incroyables. Mon docteur ne va pas très bien. Quelques vitamines dans sa marmelade pour avoir bonne mine, des carottes en salade. Mon docteur ne va pas très bien. Il est là derrière son bureau. On peut même voir sa fille en photo. Il a besoin de parler tout ce qu'il a sur le cœur. Ce qu'il a sur le cœur.
Pauline, il y a cependant eu des négociations avec le gouvernement et même quelques avancées. Cela, les personnes que vous avez rencontrées le reconnaissent. Cependant, à leurs yeux, ça reste largement insuffisant, c'est ça ?
Ah oui, totalement. La seule avancée qui a été plusieurs fois notée, c'est la reconnaissance du statut d'aide-soignante qui permet de passer de la catégorie C à la catégorie B, avec donc une augmentation de salaire qui est liée. Mais en même temps, on sait aussi que ça entraîne un départ à la retraite plus tardif qu'aujourd'hui, donc en sachant que les aides-soignantes sont un des corps de métier de l'hôpital à porter le plus de poids, et donc en fait ont déjà des violences physiques assez importantes du fait de leur travail, et donc ce départ à la retraite plus lointain va beaucoup les handicaper, notamment pour les aides-soignantes qui sont les plus âgées de leur profession. Par contre, en fait, ce qui a été surtout dit, c'était de dire « oui, d'accord, on a gagné un peu plus d'argent, mais en fait, c'est juste pour nous faire taire ». C'est qu'en fait, il y a quand même cette connaissance et cette clairvoyance sur le fait que on leur a donné un peu des miettes parce que le contexte faisait que il n'y avait pas vraiment le choix au vu du fait que les soignants et les soignantes ont été en première ligne toute cette année et que je pense que le gouvernement a pas eu trop le choix de noter ça et donc financièrement aussi les augmenter en sachant qu'ils ont augmenté de 180 € par mois alors que la demande c'est la demande minimale c'est 300 € pour juste rentrer dans la moyenne de l'OCDE en sachant qu'on fait quand même partie du haut de panier de l'OCDE en termes de PIB. Je pense que ça a été surtout, en fait, ça a été limite lancé comme une insulte pour certaines. C'est-à-dire un peu, vous nous prenez vraiment pour des gens qui aiment que l'argent, quoi. Il y en a certaines, et je ne l'ai pas pu le mettre dans l'article parce que on limite les noms automatiquement, mais il y en a même une qui m'a dit « Moi, j'aurais préféré gagner le même salaire qu'aujourd'hui, mais ouvrir des postes et ouvrir les lits. » Et je pense que, en fait, le Ségur de la santé, pour elle, c'était plus sur les conditions de travail au final que sur la question du salaire, même si je pense que le salaire est très important. Et ça n'a pas du tout été à la hauteur des demandes, et surtout dans la ruralité en particulier. Picture me in a hospital, and the blood runs red and the bags are full of. Oh, you're terrible, makes me powerful, on and on is still a song for me. I'm still around to sing it. Has a secret to hide away and never say, never know. Dans ces conditions, Pauline, que peut-il advenir justement d'un hôpital tel que celui que vous êtes allé voir ? Là, on a compris pour celui-là, son sort est réglé, mais pour des hôpitaux comparables en Dordogne ou dans d'autres milieux ruraux, quel peut être leur avenir ? Actuellement, l'avenir n'est pas très radieux. Je pense qu'on est quand même dans une logique de fusion des hôpitaux et donc en fait de fusion des compétences qui font qu'on est en train de limiter sur les territoires les hôpitaux. Que ce soit en psychiatrie, mais de manière générale. Donc on va créer plutôt un centre hospitalier de grande ampleur qui va rayonner sur 150 km autour de l'hôpital, plus que des hôpitaux éparpillés sur l'ensemble du territoire. Ce qui pose plein de problèmes, parce qu'en fait, les personnes ne vont pas se faire soigner, parce qu'aller à 150 km, ça veut dire être à 150 km de sa famille. Et donc déjà, pour des personnes qui ont du mal à se faire soigner, notamment en psychiatrie, c'est très, très problématique. Actuellement, on est vraiment sur une pente descendante, et en particulier dans la psychiatrie. J'ose espérer que le Covid a pu montrer que la santé mentale était quelque chose de primordial, en fait, dans la question de la santé, et que ça a pu peut-être orienter et réorienter certains choix. Mais en tout cas, pour le cas de l'hôpital de mon reportage, c'est pas le cas, vu que la semaine dernière, il y a eu une grève et une manifestation devant l'hôpital, notamment parce que ils sont en train de faire en sorte qu'elles vont travailler plus pour gagner le même salaire. Par des moyens de compensation de jours de congés très compliqués, dont je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui. Mais en fait, on est vraiment dans une dynamique plutôt négative auprès des hôpitaux aujourd'hui, et en particulier dans la ruralité.
Pauline, avant de terminer, j'ai une question plus personnelle à vous poser. Que retenez-vous de ce reportage ? Qu'avez-vous pensé des personnes que vous avez interviewées ?
Déjà, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes, et j'ai beaucoup d'admiration pour elles parce qu'elles se sont permis de dire des choses de l'intime, parce que son travail, c'est très intime, notamment en soins. Et j'ai été très touchée qu'elle se permette de dire ça et qu'elle se sente à l'aise de le faire et qu'elle se sente assez forte aussi pour pouvoir mettre des mots sur les situations qu'elle vit. Moi, ça m'a rendue attentive, je pense. Et attentive aux soins des autres. Attentive aussi que je pense que je regarde plus l'actualité de la même manière sur la question du soin. Et la troisième chose, moi, ça m'a beaucoup inquiétée, notamment pour l'endroit d'où je viens, où l'hôpital est situé, parce que cet hôpital, c'est un gros centre de travail pour beaucoup de gens de chez moi. Et que sa fermeture, parce que la fermeture, bien sûr, on va souvent parler de la fermeture des centres de soins, mais ça entraîne aussi la fermeture de plein d'autres corps de métier que le soin, entraîne une augmentation du chômage assez importante dans ma région. Et le chômage, ça demande aussi, ça entraîne des problèmes de santé mentale. Et en fait, ils n'auront plus d'hôpitaux pour se faire accompagner. Et en fait, c'est quelque chose qui se nourrit de lui-même et c'est pas très positif. Mais je les trouve extrêmement courageuses et voilà. Et je suis assez admiratif de leur travail.
Merci beaucoup, Pauline Moskowski-Wargly, d'avoir répondu à Merci nos questions. Beaucoup. Je rappelle le titre de votre papier paru dans la revue Deuxième Page, Épuisement, renoncement et énervement, le quotidien des soignantes et des soignants. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Leuil, Marion Ruot et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.